Voilà, bonjour. Je suis content d'être là aujourd'hui parmi vous, parce que j'ai failli ne pas l'être. Mes enfants ont le Covid, et j'avais quelques symptômes en fin de semaine, là, et jusqu'à hier, jusqu'à que je reçois mon test, le résultat, je ne savais pas si je serais là. Mais je suis heureux d'être là, parce que j'avais vraiment sur le cœur de continuer et de terminer le message que j'avais commencé dimanche passé. Mais si jamais le Saint-Esprit connaît tout à l'avance, et il avait déjà préparé un autre serviteur qui se préparait à prêcher au cas où, mais qui est très soulagé ce matin. Voilà. Ouais, c'est vrai que depuis le début de la semaine, on en a eu un, après un deuxième. Alors les enfants sont très contents parce que c'est les vacances, mais pas les parents. On bénit tous les parents ce matin qui sont avec leurs enfants. Et on remercie le Conseil fédéral d'avoir levé les quarantaines pour les cas contacts cette semaine. Voilà, donc on va continuer sur Étienne, que j'avais abordé la semaine passée. Et nous avions lu quelques textes que je ne vais pas relire ce matin pour avancer, que vous pourrez relire peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Au chapitre 6 du livre des Actes, nous avions lu une première section sur ce disciple, Étienne, et puis nous avions aussi lu la fin du chapitre 7, aussi concernant cela. Mais peut-être juste vous rappeler de quoi on a parlé la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on parle de cette église à Jérusalem, cette église qui est naissante, qui grandit, et il y a des gens qui se convertissent, qui s'ajoutent à l'église, et voilà, les disciples sont un peu dépassés, il faut structurer l'église, comme quoi la structure, ce n'est pas mauvais en soi, surtout quand il y a la vie, hein, bien sûr. Et donc, c'est la vie d'abord, et la structure vient se poser dessus. Et voilà que les disciples se disent, mais on n'a plus le temps de faire certaines tâches matérielles, il faut qu'on nomme des diacres. Et ils choisissent 7 diacres et, pour des personnes qui rendent un bon témoignage. Et parmi ces 7 diacres, il y en a un qui sort un peu du lot, qui s'appelle Étienne. Et Étienne va être vraiment béni par Dieu. Vraiment, il va devenir même un homme qui va être un prédicateur, va parler avec sagesse, va toucher les gens, va vivre aussi des miracles et des prodiges. Les gens vont être touchés par lui et il va avoir tellement de succès, même auprès de la foule et des gens qui sont à Jérusalem, que ça va créer des rivalités, des jalousies. Et il y a les chefs religieux qui n'aiment pas ça, et ils essayent de le coincer. Mais il est dit, dans les textes que nous avons lus, que c'était un homme rempli de foi et de puissance, et personne n'arrivait à résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait au travers de lui. Alors vous savez ce qu'on fait quand c'est comme ça? Quand il n'y a aucune faille, eh ben on crée des faux témoignages. Et ils ont pris des personnes pour l'accuser, et ces personnes-là sont venues lui dire des choses fausses, et du coup il a été convoqué, Étienne, face à un tribunal, le Sanhédrin, pour s'expliquer de ce qu'on disait sur lui. Et voilà tout le chapitre 7 du livre des Actes où il refait toute l'histoire d'Israël. Et à la fin, il a des propos durs vis-à-vis des chefs religieux. Et là, il ne supporte plus, quoi. Là, c'est trop. Et voilà que la foule même, entraînée par ces chefs religieux, l'emmène hors de la ville, le lynche et le tue à coups de pierre. Le premier martyr de l'histoire de l'Église, Étienne, qui a donné sa vie pour le témoignage de Jésus-Christ. Et il y en a eu d'autres des martyrs. Et j'avais cité aussi un martyr plus récent, plus proche de nous, qui s'appelle, lui, James Elliot, qui a été missionnaire dans les années 50 parmi une tribu en Amazonie, et qui est aussi mort pour sa foi, et qui a dit cette citation et cette phrase suivante qui va s'afficher dans quelques secondes. Voilà. Il a dit « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Parce que notre vie, on la perd au bout d'un moment. Donc ce n'est pas une folie quelque part de ne pas la garder, de la donner, de l'offrir pour le Seigneur. Mais si on l'offre pour le Seigneur, alors il y a quelque chose qu'on ne peut pas perdre, c'est notre vie. C'est notre vie éternelle. Parce que si on la donne au Seigneur pour le témoignage, pour le Seigneur, lui, il est la résurrection et la vie. Et notre vie va avoir tout un sens et nous ressusciterons et nous vivrons éternellement. Donc, nous ne perdons pas notre vie. Et donc, dimanche passé, j'avais donc parlé justement de ce que Étienne a perdu. Étienne a perdu sa vie, Étienne a perdu son avenir, Étienne a perdu plein de choses. Il a perdu, par exemple, le soutien de la foule, cette foule qui l'aimait et qui soudainement a changé et a commencé à le faire taire. Il a perdu sa vie parce qu'il y avait son avenir, c'était quelqu'un qui avait la vie devant lui. Il aurait pu faire tellement de projets, tellement de choses dans sa vie, et voilà que sa vie s'arrête soudainement et subitement. Et c'est assez déroutant de voir cela, de se dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets qu'un élément si brillant, si utile à l'avancement de ton royaume, s'en aille soudainement? Arrête cet élan, cette vie qu'il y avait, tout ce qui se passait dans cette église. Et là, on s'était arrêté sur le fait de dire, mais que parfois, la volonté de Dieu est mystérieuse, que parfois elle nous échappe, que parfois les plans du Seigneur ne sont pas nos plans, sa logique n'est pas notre logique, et Dieu parfois suit son plan plutôt que le nôtre. Et nous avions parlé la dernière fois aussi de pouvoir nous accorder avec le plan du Seigneur, nous aligner sur sa volonté. Et ce que j'aimerais voir ce matin avec vous, c'est ce qu'il a gagné, ce qu'il a obtenu, et nous verrons aussi l'impact qu'il a eu. Ce qu'il a reçu, premièrement. Étienne a reçu plusieurs choses et a vécu plusieurs choses au travers de ce qu'il a vécu. Il a reçu la joie et la satisfaction de rester fidèle à ses convictions. Vous savez, Étienne, je pense, faisait partie de ces personnes qui ne se laissaient pas intimider. Il n'était pas question pour lui, je pense, de faire des compromis. C'est un homme droit, je pense, et ses convictions étaient tellement enracinées dans sa personne qu'il ne pouvait proclamer que ce que sa conscience lui dictait. Et en faisant cela, il a trouvé la joie. Il a trouvé une certaine joie. En restant fidèle à ses convictions intérieures et en vivant et en parlant selon ses convictions, il a trouvé la joie alors même qu'il risquait sa vie. Et il a trouvé autre chose, il a trouvé la paix, vous savez, la paix du cœur, de pouvoir être en paix avec soi-même. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux quand vous voyez des personnes qui passent par des moments difficiles, par des difficultés, et qui ont cette joie profonde, et qui ont cette paix profonde. Et c'est encore plus extraordinaire quand vous voyez la vie de personnes, quand vous regardez peut-être une vie de certains ministères et de certaines personnes par ce à quoi elles sont passées et de voir leur témoignage, est-ce qu'elles vivent au travers de cela. Je ne peux pas parler pour tous les ministères, mais je peux parler pour des gens que je connais. Je pense notamment à mes parents qui sont avancés en âge. Mon père va bientôt avoir 82 ans cette année, au mois de février d'ailleurs. Et c'est vrai, quand je vois leur vie, quand je vois la vie de mes parents, et dans le ministère, et dans cette vie qu'ils ont donnée en Afrique, en tant que missionnaires, et que je vois par quoi ils ont traversé, et je me dis toujours, c'est des gens qui sont restés fidèles à leurs convictions, quoi qu'il arrive. Tout d'abord, en tant qu'enfant, il n'y avait pas de différence entre la vie publique et la vie privée dans la vie de mes parents. Déjà, il n'y avait pas de double jeu chez eux. Ils ont toujours été vrais, ils ont toujours été fidèles à qui ils étaient. Et qu'ils soient à la maison ou à l'église ou dans le ministère, c'était les mêmes. Il n'y avait pas de comédie ou d'hypocrisie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils ont toujours été fidèles à être en accord avec leurs convictions, à ce qu'ils croyaient. Alors je ne dis pas que mes parents avaient raison sur tout, mais il y avait cette capacité à être vrai dans toutes les situations. Et parfois, d'être vrai et de dire la vérité, ça leur a provoqué de l'opposition. Ça leur a même provoqué des complications. Et parfois même, des trahisons. Et vous savez, quand on est trahi par des personnes qui sont chrétiennes, c'est encore pire, parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Mais quand je revois leur vie, quand je pense à leur vie, je ne retiens pas ça. Je ne retiens pas les difficultés, je ne retiens pas les combats qu'ils ont eus. La chose que je retiens quand je pense et que je vois leur vie aujourd'hui, je vois que c'est des gens heureux. C'est des gens qui n'ont pas perdu la joie, qui ne sont pas devenus amers, qui n'ont pas de regrets. Ils n'ont pas été parfaits, mais je vois cette joie profonde et cette paix qu'ils ont alors qu'ils arrivent au bout de leur vie. Ils sont en paix avec eux-mêmes. Ils sont joyeux et heureux. Ce n'est pas merveilleux? Et ça, c'est ce que je retiens de leur vie. C'est ce qui me touche le plus dans leur vie que le reste. Étienne a vécu cela pleinement. Il a eu cette joie d'être fidèle, d'être cette satisfaction, d'être fidèle à lui-même. Étienne a vécu une autre joie, c'est celle d'exprimer sa consécration par l'obéissance. Étienne, c'est quelqu'un qui avait entendu la voix de Dieu, qui l'avait appelé à être un prédicateur de l'Évangile, à prêcher l'Évangile. Dieu lui avait dit « prêche », c'était son appel. Alors il s'est levé, il a fait. Mais vous savez, quand on annonce l'Évangile, ben, on l'annonce dans tout ce qu'il est. Et Dieu lui a dit « reprends aussi », et il l'a fait. Et Dieu lui a dit « corrige », et il l'a fait. Étienne l'a fait, a obéi jusqu'au bout. Et il a trouvé une certaine joie à le faire. Parce que vous savez quoi ? Quand on est pleinement dans son appel et qu'on fait ce pour quoi Dieu nous appelle, il y a une satisfaction et une joie profonde. Vous savez, des fois, on entend des personnes qui vivent une certaine tristesse, une certaine douleur, parce qu'elles font un travail qui ne leur correspond pas. Elles ne sont pas épanouies. On dit que d'ailleurs, si on se lève le matin pour aller au travail et puis qu'on n'a pas trop envie de se lever pour aller au travail, c'est que peut-être on n'est pas à sa place. Alors après, voilà, il y a des circonstances, il y a des situations, mais je pense notamment aux jeunes avec qui je discute, que je rencontre. Et c'est vrai, on est à ce moment, on veut faire quelque chose qui corresponde à qui on est plus tard. Et quand ce n'est pas le cas, c'est une souffrance et une tristesse. Mais lorsqu'on fait un travail qui correspond à qui nous sommes, ou lorsqu'on entre dans un appel, une vocation qui correspond peut-être à l'appel de Dieu qui est sur nos vies et qu'on le vit pleinement et qu'on le vit jusqu'au bout, il y a une joie profonde et une satisfaction de le vivre malgré la difficulté. Et lorsqu'on a découvert le message de l'Évangile, cette vérité qui libère en tant que nous, en tant que chrétiens et que nous sommes appelés à le partager autour de nous et que nous le faisons pleinement, alors il y a une joie et une satisfaction d'être en accord avec qui nous sommes profondément. Malgré peut-être le contexte qui n'est pas toujours évident. Alors Étienne, il est en train de leur parler, de prêcher, il est pleinement dans son appel. Et on voit bien qu'il rayonne dans ce qu'il fait, qu'il est là où il doit être. Parce que les autres, dans le texte, il est dit qu'il avait... Les autres le voient et disent « mais son visage est comme celui d'un ange ». Il y a comme il vit comme une extase, une sorte de joie profonde, une communion profonde avec Dieu à ce moment-là. La joie de cette consécration pour Dieu. La satisfaction d'une profonde obéissance. On voit que Jésus a vécu cela également. C'est dit dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 2 que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est assez étonnant, hein, ces deux notions, croix, souffrance et joie. Mais il est dit qu'en vue de de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a trouvé de la joie dans l'obéissance. Et il nous invite aussi à entrer pleinement dans notre appel et à le vivre jusqu'au bout. Étienne donc a connu cette joie-là. Il a connu cette joie aussi de la présence de Dieu. C'est ce qu'il a gagné aussi dans ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il a vécu une expérience extraordinaire, n'est-ce pas? Parfois, vous savez, j'entends des gens dire « Ah, j'aimerais tellement entendre la voix de Dieu. » Alors la voix de Dieu vraiment qui me parle, ou bien « J'aimerais voir Jésus. » Je ne sais pas si vous aspirez à ça, mais je pense qu'on aspire à voir Dieu, à le voir nous parler, à le voir se révéler à nous, à se manifester. Et c'est ce qu'Étienne a vécu. C'est ce qu'Étienne a vécu. Alors peut-être pas dans les conditions qu'il aurait souhaitées, mais c'est ce qu'il a vécu. Il est dit dans le chapitre 7, vers la fin, il fut, ou bien je crois que c'était au début, je ne sais plus exactement, il fut rempli du Saint-Esprit, c'est écrit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Qui c'est qui recherche d'être rempli du Saint-Esprit? Recevoir la plénitude du Seigneur. Hein? Moi, c'est ce que je souhaite. Nous souhaitons cela. Mais peut-être pas dans ces conditions. Je ne vais pas vous faire lever la main ce matin en disant « Qui c'est qui veut être rempli du Saint-Esprit ?» Parce que vous allez dire « Attends, tu vas nous piéger là. » Parce que le contexte là, je veux bien être rempli du Saint-Esprit, mais peut-être pas avec cette situation. Je vous comprends tellement. Mais c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a gagné. Cette plénitude du Saint-Esprit que nous recherchons. Et plus que ça, il a vu dans le ciel la gloire de Dieu. Le ciel ouvert, et il a vu le Père, le Fils, il les a vus. Et c'était tellement extraordinaire qu'il le disait, il le partageait. Et ce qui est assez inhabituel dans cette vision, c'est qu'on voit que Jésus n'est pas assis à la droite de son Père. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de versets, hein. Il est dit que Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de son Père, donc c'est cette notion du roi qui s'assied pour régner sur son trône à la droite du Père. Donc c'est vraiment l'image que la Bible donne. Mais là, étonnamment, Jésus n'est pas assis, il est debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est assis au-dessus de toute autorité et de toute puissance, celui qui, devant toutes les puissances, bonnes ou mauvaises, se lève pour accueillir son enfant, Étienne, pour lui tendre la main, pour lui dire bienvenue, pour l'honorer. Le roi qui se lève pour son enfant, pour Étienne, son disciple. Incroyable. Dieu qui se lève pour Étienne, en signe de respect et d'accueil. Jésus l'avait dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Voilà ce que Étienne a gagné. Le respect même de Dieu. Une communion plus grande et plus profonde avec lui. Il a goûté pleinement à la présence de Dieu. Au début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup lu l'histoire du Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si des gens connaissent. Ça date un petit peu, ça date de la fin du 20e et du fin du 19e, enfin 1800 je crois qu'il est né par là, et début du 20e siècle. Et c'est un Indien qui vient d'une famille prestigieuse en Inde, dans la classe dirigeante, et très croyante, la religion sikh. Et sa mère destinait son fils à devenir un sadhu justement, donc un saint en sanskrit. Et il était destiné à cette vie-là, mais malheureusement pour sa famille qui avait fait tous les plans, c'est qu'il s'est converti à Jésus-Christ. Et il est devenu un disciple de Jésus. Et là, il a tout perdu. Il a perdu son titre, sa position, la vie luxueuse qu'il aurait pu avoir, parce que sa famille n'acceptait pas qu'il ait quitté la religion ancestrale, familiale, subitement. Et voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. C'est un homme qui a beaucoup aussi voyagé en Occident, qui a beaucoup témoigné, donc c'est pour ça qu'il est assez connu. Et voilà ce qu'il dit. « Je me souviens, écrira-t-il plus tard, du soir où je fus chassé de chez moi. Je n'oublierai pas cette première nuit passée sous un arbre, par un temps de froid. Je n'avais jamais été soumis à pareille épreuve. Je songeais. Hier encore, je vivais entouré de tout le luxe de ma maison. Maintenant, je tremble de froid. J'ai faim et j'ai soif. Je suis sans abri, privé de vêtements chauds et de nourriture. Je restais toute la nuit sous cet arbre et une joie, écoutez bien, une joie merveilleuse et la paix inondait mon âme. Je sentais la présence de mon Sauveur. Je tenais mon Nouveau Testament dans ma main et ce fut pour moi comme ma première nuit passée au ciel. Je comparais avec bonheur mon état présent à ma vie luxueuse d'autrefois. Au milieu des richesses et du confort, je n'avais pu trouver la paix. Maintenant, la présence de mon Sauveur changeait la souffrance en joie. Depuis lors, j'ai toujours senti sa présence. » Pourquoi y a-t-il si peu de joie dans le monde? Pourquoi y a-t-il tant de gens malheureux? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui ont le cœur brisé? Alors, je ne crois pas que je peux répondre à cette question totalement maintenant, mais je peux vous donner un élément de réponse à partir de ce qu'on vient de voir. On ne peut trouver la vraie joie et la paix profonde si on n'est pas dans cette suivance du Christ, en étant disciple du Christ et en allant jusqu'au bout de son appel sur nos vies. C'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelait la suivance du Christ. Et j'aime bien utiliser ce mot suivance du Christ parce qu'il y a une notion dynamique. On parle beaucoup de discipulat aujourd'hui, mais je préfère parler de la suivance du Christ. Parce que la suivance du Christ, ce n'est pas seulement d'entendre son appel, mais de se mettre à sa suite et de le suivre. Il y a une notion dynamique. Il y a une notion où on peut s'arrêter de le suivre. On peut être en chemin derrière lui, mais on peut s'arrêter sur le chemin. On peut aussi se dire disciple, c'est très statique, et ne plus bouger. Mais Jésus continue. Il y a cette notion de le suivre jusqu'au bout de ce qu'il nous demande. On reviendra après qu'il ne nous demande pas tous la même chose. Et là, sur cette suivance, sur ce chemin, on trouvera la vraie joie et la vraie paix. La terre, le monde, la société nous offrent des fausses joies, nous offrent des joies éphémères, nous offrent une paix éphémère. Mais il y a quelque chose de profond, de doux, de vrai dans la suivance du Christ. Et c'est ce qu'Étienne a connu. Et c'est ce qu'Étienne a vécu, et c'est ce qu'Étienne a gagné. Et une dernière chose qu'Étienne a gagnée, et pas des moindres, c'est qu'Étienne, il a eu la joie de pardonner à ses accusateurs, à ses meurtriers. C'est fort, hein ? Il va dire, c'est les dernières paroles qu'il va dire, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. C'est magnifique de quitter ce monde, pas dans ces conditions-là, on est d'accord. Je souhaite à personne, ni même à mon pire ennemi, de finir comme ça, mais de quitter ce monde en disant ces paroles, en disant « Mais Père, pardonne-leur à ceux qui sont en train de lui lancer des pierres. » Et qu'est-ce que ça doit faire mal? Et ça prend du temps. Quel miracle il a vécu! Quelle grâce! Il faut un miracle de Dieu pour vivre ça. Jésus nous invite dans le sermon sur la montagne à bénir nos ennemis. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ces textes, vous dire « Ouais, facile ». En tout cas, moi, quand je lis ces textes, je peux vous dire, je me dis « Mais comment je pourrais faire ça? Comment bénir mes ennemis ? Ceux qui me persécutent. » Et quand il est dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui vous persécutent », mais comment on peut être heureux par ceux qui nous persécutent? Attends, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Donc il y a une dimension qu'on peut vivre que parce que la grâce de Dieu, sa puissance et sa force nous permettent de le vivre. Mais je peux vous assurer que moi, je n'ai pas du tout envie de mourir martyr. Et quand je lis des témoignages, et j'en ai lu cette semaine, et quand je lisais ces témoignages, je me dis, mais comment ils faisaient pour aller au bûcher, pour leur foi? Mais ce n'est pas possible. Et comment pardonner à ceux qui nous ont trahis? Et là, il y a une dimension qu'on ne peut pas vivre si le Seigneur n'intervient pas, je pense. Je pense qu'on peut dire oui au Seigneur, mais jusqu'au bout, c'est le Seigneur qui le fait dans nos vies. Parce que ce n'est pas possible, humainement parlant. Et c'est ce qu'Étienne a vécu. Et c'est ce qu'il a gagné. Il a pu vivre cette expérience absolument miraculeuse. Et la dernière chose que j'aimerais voir encore avec vous, au-delà de tout ce qu'il a gagné, de tout ce qu'il a vécu lui personnellement, tout ce qu'il a vécu, je vais dire, miraculeusement, c'est l'impact qu'il a eu et ce qu'il n'a pas vu, en fait, de son vivant. L'impact qu'il a eu. Et j'aimerais m'arrêter sur un autre personnage pivot à ce moment-là, qui est le personnage de Saül. Saül qui, lui, est là, assiste à la scène. Saül qui va devenir Paul. Donc Saul, plutôt on dit Saul, Saul de Tarse. Pas le Saül de l'Ancien Testament. Et voilà que Saul est là, et il est dit qu'il approuvait le meurtre d'Étienne. Et plus loin, alors qu'il témoigne de sa vie, dans Actes au chapitre 26, au verset 10, il dit que Paul avait déjà fait ça pour Étienne et pour d'autres. Et voilà ce qu'il va dire. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Donc ça vous donne un petit peu un portrait du personnage. Paul confesse là qu'il était là dans ses exécutions et notamment à celle d'Étienne. Il dit qu'il, dans le texte, il gardait les vêtements. Donc vous voyez quoi, pour lapider, petit cours de lapidation rapide ce matin, donc ils avaient des vestes, des manteaux, et donc pour être plus à l'aise, pour mieux, voilà, plus juste et plus fort, il fallait un peu se débarrasser. Donc il gardait les vêtements de ces personnes qui lapidaient. Donc il a assisté à cette lapidation, il les a encouragés. Et on sait même que Paul était quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin. Donc il a voté, il a porté son suffrage. Mais voilà que cet homme qui est là, à la mort d'Étienne, va vivre une expérience extraordinaire sur le chemin de Damas et va être totalement retourné par le Seigneur et va totalement être bouleversé par cette rencontre face à face avec le Christ ressuscité, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et voilà qui va devenir un disciple de Jésus. Fantastique, incroyable. Et quand je vois cette histoire, je me pose la question. Est-ce que l'exemple d'Étienne a quelque part joué dans la conversion de ce Saul de Tarse? Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a un arrangement littéraire aussi qui est là, où l'auteur, inspiré par Saint-Esprit, veut nous donner une piste de lecture. Je pense que ce qui s'est passé avec Étienne est certainement le témoignage du Saint-Esprit qui a utilisé vraiment cette scène avec Étienne, a été le premier maillon d'une chaîne qui a touché le cœur de Paul et l'a préparé à sa conversion. Il faut s'imaginer que ce que Saul a vu ce jour-là, ce qu'il a entendu, qu'il a vu ce visage comme un ange, il a vu comment il est mort en bénissant ses ennemis. Il a vu cela. Il a vu qu'il était en train de se passer quelque chose de grand dans la vie de cet homme. Et ça a touché son cœur et ça a été le départ d'une réaction en chaîne. Peut-être pas, il ne s'en est pas rendu compte sur le moment, mais il y a un travail en profondeur qui se faisait. Et c'est devenu l'apôtre Paul qui a amené l'évangile en Europe. Et là, on touche à un mystère aussi de l'Église. Vous savez que la croissance de l'Église, on parle beaucoup de la croissance de l'Église, hein ? On parle de la croissance économique, mais on parle aussi de la croissance de l'Église. C'est le sujet favori des pasteurs et des mouvements d'Église, ou même d'œuvres. Mais il y a un phénomène absolument étonnant qu'on ne trouve pas dans les manuels de croissance habituels, c'est que plus l'Église est persécutée, plus justement elle grandit. Plus on met à mort des chrétiens, plus il y en a de nouveaux qui s'ajoutent. C'est étonnant, hein, comme système de croissance. Les premiers siècles de l'Église naissante, l'Église primitive a connu énormément de persécutions pendant plusieurs siècles. Et il y a eu un père de l'Église qui a dit une phrase, qui a fait ce constat, justement, de ce que je suis en train de vous dire, et qui va dire, donc il a vécu au deuxième siècle, et il va dire cette phrase qui est passée à la postérité, je vous l'ai dit, Semen est sanguis Christa norum. Vous avez compris ? Donc il parlait en latin à cette époque. Non, c'est le sang des chrétiens est une semence efficace. Et si on regarde sa citation, la voici, plus complète. Voilà ce qu'il va dire. Pour aussi raffinée qu'elle soit, votre cruauté ne sert à rien. Elle constitue même une invitation pour notre communauté. À chaque coup de faux que vous nous portez, donc la faux comme la faux de la mort, nous devenons plus nombreux. Le sang des chrétiens est une semence efficace. Deuxième siècle, après Jésus-Christ. Et on le voit tout au long de l'histoire, qu'il va y avoir, tout au long de l'histoire de l'Église, on va voir que la façon de mourir de ces justes, de ces chrétiens, de ces hommes pleins de foi, vont toucher leur environnement. Parce qu'ils ont une façon différente de mourir. Il y a quelque chose qui va toucher les cœurs. Il y a quelque chose de divin qui se passe. Plus proche de nous, il y aurait tellement d'exemples, mais j'aimerais en prendre encore un. L'histoire des anabaptistes. Vous connaissez un peu le mouvement anabaptiste ? C'est vraiment le mouvement dont nous sommes héritiers, nous les chrétiens évangéliques aujourd'hui du XXIe siècle. Le mouvement évangélique ne vient pas des États-Unis, si jamais, mais vient de notre Europe, vient du XVIe siècle. Nous sommes des anabaptistes, c'est des gens qui baptisaient adultes. Donc ça date de la période de la Réforme. Et ils ont été pas mal persécuté. Et dans un livre que j'ai, qui s'appelle « Miroir des martyrs », histoire d'anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au XVIe siècle. J'aimerais vous conter l'histoire de deux femmes, justement, qui ont vécu une mise à mort, et voici le récit. L'amour réciproque qui les liait et le courage que Dieu leur donna confortèrent les deux femmes. Elles répondirent sur un ton tranchant à leur interrogateur. Toutes deux comprenaient et expliquaient leur foi avec facilité, au point d'irriter plusieurs membres du clergé, qu'on avait convoqué de nouveau le tribunal. On avait fait venir l'interrogateur principal de Bourgogne et il devait les induire à renier. Elles prièrent et demandèrent la force de résister et de supporter le feu, mais aussi le courage de rendre un bon témoignage, parce qu'elles mourront justement brûlées. Quand sur le lieu d'exécution, les spectateurs pleurèrent sans retenue, les deux femmes les exhortèrent à pleurer sur leurs propres péchés et à se confier à la grâce de Dieu qui triomphe de la peur et qui permet à ses enfants de revenir à lui. Elles rayonnaient de joie dans la mort. L'histoire de leur résistance courageuse aux pressions familiales fit une impression durable sur beaucoup. Elle fut reprise dans de nombreux récits de martyrs au-delà des ouvrages ménonites, puisque les anabaptistes sont devenus aussi les ménonites, et ce qui est rarement le cas pour des anabaptistes. Alors vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, et que c'est toujours, on est dans cette continuité de l'histoire. Et pour revenir à Saul le Juif, qui avait cette colère et cette haine contre les disciples du Seigneur, il est même dit qu'il respirait le meurtre. Cet homme-là, lui, s'est converti en un instant. Grâce à la mort martyre d'Étienne, il devient cet apôtre, comme je l'ai dit, des non-juifs. Quelqu'un qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament quand même. Mais quand je pense à cela et je me dis que l'impact qu'a eu la consécration au sacrifice d'Étienne, je me dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors c'est vrai que Dieu est souverain. Dieu avait ce plan-là pour Étienne, mais pas pour les six autres diacres. Ça ne s'est pas passé pareil pour eux. Il y en a un autre aussi qui est passé de diacre et qui a développé, que Dieu a béni aussi, il s'appelle Philippe. Il est devenu un évangéliste. Il a évangélisé un eunuque éthiopien qui après est retourné en Éthiopie, qui a annoncé l'évangile. Il a été évangéliste, vous vous souvenez aussi, en Samarie. Donc il a fait une œuvre extraordinaire et il est resté, il était là. Donc Dieu a un plan général pour annoncer l'évangile. D'accord ? On y participe tous. Mais il a des plans particuliers et différents pour chacun d'entre nous. Mais quel que soit le plan auquel Dieu nous appelle, n'ayons pas peur d'aller jusqu'au bout, d'être dans cette obéissance. N'ayons pas peur du sacrifice et de la consécration. Qu'on puisse accepter l'appel du Saint-Esprit qui lance à chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous, nous puissions offrir à nouveau, comme Étienne l'a fait, une vie offerte, c'est le titre de mon message, que nous puissions offrir à nouveau nos vies. Et le Seigneur, lui, nous donnera la force pour aller jusqu'au bout. Si on est dans cette décision personnelle de dire oui Seigneur jusqu'au bout, alors le Seigneur lui fera le reste. Et nous expérimenterons cette joie surnaturelle, cette présence de Dieu dans la difficulté, l'épreuve, l'opposition. Et on verra, peut-être pas de notre vivant, mais je crois que quand nous serons au ciel, pour l'éternité, nous pourrons voir, en nous retournant sur notre vie. Peut-être, dans des moments de notre vie, on pense qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien produit. Je n'ai connu que difficultés, que découragement. À ce moment-là, le Seigneur me montra l'impact que ma vie a eu à ce moment-là. L'impact qu'il a eu dans la vie de ceux qui étaient autour de nous, sur terre. On ne sait pas, on n'imagine pas, mais le Seigneur, lui, nous montrera. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'être disciple, c'est de jouer au kamikaze pour ressembler à Étienne. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que notre vie, on l'offre à Dieu, sans savoir la finalité, sans savoir le bout. Et l'exemple d'Étienne est l'exemple par excellence, puisque lui, il a allé jusqu'au bout du bout, offrir sa vie. Mais peut-être que dans nos vies, il y a des domaines ou des situations où Dieu nous appelle de manière moindre, de manière beaucoup moindre, à offrir notre vie et à marcher dans l'obéissance. Mais ça, c'est quelque part, j'aimerais dire, ça nous concerne chacun et chacune, jeune, moins jeune. C'est notre marche personnelle dans la suivance du Christ. Et Jésus est notre modèle, il n'est pas notre exemple. Nous ne sommes pas tous appelés à mourir. Déjà, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est porter le péché de l'humanité. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre comme Étienne ou comme tous ces martyrs. Mais nous sommes appelés à marcher derrière Jésus et à, comme eux, dans un modèle, le modèle qu'ils nous ont montré de toutes ces personnes qu'ils ont précédées dans la foi, dans notre attitude, à être dans une attitude de foi, dans se dire « je veux être fidèle jusqu'au bout ». Alors vivons selon nos convictions, vivons, renouvelons notre engagement à la suite du Christ, car nous ne savons pas aussi l'impact que cela aura lieu. Je vous invite à la prière. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi, et quand on entend l'histoire d'Étienne, on peut être dans la peur ce matin, dans la crainte, mais ce n'est pas ce que tu nous invites ce matin. Tu nous invites au contraire d'être dans la foi et la confiance. Et ce matin, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Pour ceux peut-être qui se sont arrêtés ce matin sur ce chemin, qui se sont dit c'est trop dur. Viens Seigneur, les remettre en route. Ce matin, Seigneur, nous t'apportons nos vies et j'aimerais prier particulièrement ce matin pour les personnes qui se disent « mais j'ai été fidèle au Seigneur, j'ai tenu bon et j'ai connu que des souffrances et des difficultés. » Et ce matin, tu vois ces personnes et tu veux les encourager ce matin. Peut-être qu'elles ont l'impression que leur vie n'a rien produit, que de te suivre, ce n'est que souffrance, de te rester fidèle, ça leur coûte tellement, alors que certains vont bien et que même autour d'eux, ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui vivent cela. Je te prie, Saint-Esprit, de venir les relever, les encourager ce matin. Le Seigneur vous dit qu'il fait une œuvre tellement grande. Et le Seigneur veut vraiment vous encourager ce matin. Renouvelez vos forces. Renouvelez votre foi en lui. Il y a un appel à renouveler votre engagement, mais aussi à recevoir du Seigneur cette dimension de la foi, de la joie et de la paix. Seigneur, libère cela ce matin encore sur nos vies. Et que là où il y a eu le découragement, là où il y a eu même peut-être la colère, tu puisses vraiment y mettre cette joie et cette paix profonde. Au nom de Jésus. Amen.